Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme.
Très content que tu sois parmi nous aujourd'hui.
Plaisir.
Alors, avant de te présenter, je vais rappeler le fonctionnement et pourquoi ce podcast. Donc, l'histoire de la cybersécurité, enfin, là, j'aurais préféré la SSI, mais française, comme ça tout le monde comprend. C'est un podcast pour la communauté cyber et pour comprendre, les jalons qui ont formé la cyber d'aujourd'hui à travers des interviews de personnes qui y ont assisté. Et qui de mieux que Olivier Calef pour parler, je pense, d'Ecihurst. Voilà, modestement, je sais, mais clairement, tu es la personne parfaite pour pouvoir nous expliquer tout l'historique et peut-être aussi même le fonctionnement pour tous nos jeunes ou voire nos moins jeunes qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est derrière cet acronyme. Donc, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer ton parcours?
Eh bien, j'ai commencé à travailler en 85. À l'époque, on parlait effectivement de sécurité et pas de cybersécurité. Après avoir fait mon service militaire, parce qu'à l'époque, on le faisait, comme scientifique du contingent, j'ai commencé chez Dassault Électronique pour m'occuper des réseaux. Et à l'époque, c'était les réseaux hétérogènes. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'infrastructure classique qui était IBM et SENA, et puis il y avait le reste. Et moi, j'avais été embauché pour m'occuper des réseaux normalisés, protocoles OSI de l'ISO. Et puis, quand je suis arrivé, mon responsable, qui s'appelait Gilles Ibanez, quelqu'un de très très bien, m'a dit: bah, écoute, Olivier, on est désolé, mais finalement, tu ne vas pas pouvoir travailler là-dessus. Par contre, t'inquiète pas, dans 2 3 mois, ça va arriver, ça va être normalisé. Par contre, en attendant, on va te donner un autre truc à faire. Est-ce que tu pourrais t'occuper d'un nouveau type de réseau qu'on voit apparaître comme ça dans les labos, s'appelle Ethernet. Et puis, il y a un protocole de communication. Alors, bon, je sais bien que ce n'est pas normalisé, mais ça sert quand même, ça s'appelle TCP/IP. Donc, est-ce que tu peux t'en occuper un petit peu? Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Wow.
J'ai jamais vu les protocoles de l'ISO, mais je connais un petit peu TCP/IP.
Les prémices.
Voilà, donc Dassault Électronique pour commencer. Après, au bout de quelques années, j'ai quitté Dassault Électronique pour monter avec 4 autres personnes une société de service qui s'appelait Apogée Communication. Donc il y avait Yves Charles, il y avait Eric Moreau, il y avait Chaline Thieu et puis Catherine Sapin. Et puis de 5, on a terminé au bout d'une dizaine d'années à peu près 200 ou 250. Donc, une réussite, je dirais, dont je suis quand même assez fier, parce que c'est avant tout une très belle aventure humaine. Et ça, c'est un point, je pense, qui est important quand on parle notamment de sécurité, de CSIRT ou autre, mais les personnes, l'humain, c'est vraiment très, très important. Je dirais presque, moi, si aujourd'hui je devais résumer ma vie, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Alors, bon, je ne vais pas continuer comme Otis, mais disons que c'est quand même très important et je pense que ça marque quand même ma carrière. Et j'ai fait des choix qui étaient liés avant tout à des personnes, beaucoup plus qu'à des entités.
Là, tu vas
Voilà.
nous en parler clairement, ça se
Exactement.
voit dans ton parcours.
Tout à fait. Donc, Apogée Communication, c'était principalement gestion. Moi, je m'occupais de toute la partie gestion des réseaux, supervision. Donc, c'était l'époque de SNMP, SONET Manager. Et puis, j'avais quelque chose qui me trottait dans la tête. C'était justement ces aspects de sécurité auxquels j'avais déjà commencé à regarder chez Dassault Electronics. Parce que c'était aussi une époque où les militaires commençaient à s'intéresser à des technologies moins onéreuses pour les bâtiments, notamment de la marine, mais pas que. Et c'était la part torsadée, les débuts de la terre torsadée, de la paire torsadée, de la fibre optique, etc. Et donc, de là, les réseaux militaires et donc la sécurité. Et donc, j'ai commencé à faire de la sécurité assez tôt. Et puis, au détour d'un projet d'administration de réseau, le responsable du projet chez le client me dit: tiens, tu devrais rencontrer une personne qui travaille dans nos équipes, qui apparemment parle un peu comme toi, donc vous devriez vous entendre. Cette personne-là, c'était Bertrand Vel, qui effectivement s'occupait du premier firewall à l'époque de la société en question. Et puis, c'est comme ça qu'avec Bertrand, on a commencé à travailler ensemble. Ça a duré pendant à peu près 20 ans. Bon, maintenant, il est à la retraite. Mais on continue à se voir toujours. Et je dirais, encore une fois, l'humain, c'est vraiment important. Donc, c'est une fois Apogée, l'aventure Apogée qui a été, je dirais, transformée avec un rachat par Colt, puis après avec Devoteam. Et puis, je dirais, globalement, au bout de 20 ans, dans cette suite assez logique, il y a eu 2 choses qui sont passées. D'abord, une directrice générale qui a été nommée et qui a eu un effet assez dévastateur sur l'équipe. Donc, je ne donnerai pas son nom parce que je ne veux pas qu'on se moque. mais certains comprendront. Et d'autre part, le fait que justement Bertrand, lui, était rentré à l'ANSSI et m'a dit on fait quand même des choses très intéressantes, tu devrais voir. Et puis, dernier point, c'est qu'il y avait aussi Franck Vesset, que je connaissais à l'époque où il était chez France Télécom, devenu Orange. Parce que j'ai eu l'occasion de gérer une table ronde où il intervenait, où il parlait de sécurité du Wi-Fi, dans le cadre d'une conférence Eurosec. Alors, Eurosec, je tiens à préciser, c'était une conférence qui existait dans les années 90, qui était à peu près la seule conférence digne de ce nom qui parlait de sécurité. Et c'était vraiment l'événement où il fallait être. Ça durait 3 ou 4 jours. Et c'était vraiment très, très, très intéressant. Donc voilà, donc l'autre intérêt, c'était effectivement Franck Vesset. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré à l'ANSSI dans le cadre du CERT-A, qui est devenu le CERT-FR, où je m'occupais des relations internationales. Donc ça me plaisait aussi parce que moi, dans ma carrière, j'ai toujours bien aimé travailler en anglais ou avoir des relations internationales. Je dirais pas plus qu'en France, mais pour moi, c'est un point important parce que la sécurité, c'est pas simplement dans son pays. Il faut vraiment avoir une vision la plus large possible. Voilà. Après le CERT-FR, je suis rentré chez Sanofi pour m'occuper de cyber-résilience. Là, deux choses, en fait, deux raisons. La première, c'est... et finalement, je ne suis pas rentré vraiment chez Sanofi. Je suis rentré chez Sanofi parce qu'il y avait des personnes. La première personne, c'est Thierry Mancio, un ancien collègue d'Apogée, je dirais, avec lequel j'avais d'excellentes relations. On avait fait des audits ensemble à l'étranger. Et puis le deuxième, c'était Jean-Yves Poichotte, que je connaissais d'avant, de son époque où il était chez CGTL, et qui est, je dirais, je pense dans ma carrière, le RSSI qui m'a peut-être le plus impressionné. À la fois par ses qualités humaines, et ça, encore une fois, c'est important, et puis aussi sa vision et ce qu'il fait et ce qu'il arrive à faire. Donc Jean-Yves, c'est vraiment quelqu'un qui m'a aussi aidé, parce qu'il y avait des moments où, je dirais, j'avais non pas des difficultés, mais j'avais des problèmes pour bien voir comment faire évoluer les projets de sécurité en interne d'une très grande société qui est Sanofi. Et puis, je me suis rendu compte aussi que les grandes sociétés, finalement, c'était pas pour moi, ou alors pas à trop de doses. Donc, un jour, je suis allé voir Jean-Yves en lui disant, écoute, je vais pas rester. Donc, il m'a demandé où est-ce que j'allais. Je lui ai dit, je sais pas. Donc, la seule chose que je sache, c'est que la cybersécurité, c'est ma passion. Donc, je vais continuer. Et puis, la société où j'irai, elle fera moins de 200 personnes. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré chez Arium. Là encore, une histoire de personne, puisque Arnaud Lemen, qui est un des cofondateurs d'Arium, était un de mes anciens stagiaires. Et donc, on s'est retrouvés comme ça. Et l'autre possibilité que j'avais, c'était dans une autre société où j'avais aussi un ancien élève. Mais c'est vraiment tout des problèmes, des questions de personnes. Voilà un petit peu la carrière. Et puis à côté de ça, mais je pense qu'on en parlera plus tard, il y a toutes les associations dont je fais partie.
Oui.
Voilà.
Ça fait du bien d'entendre la passion à travers notre métier, parce qu'on en a parlé en prémisse de ce podcast. C'est quelque chose qu'on retrouve peut-être un peu moins, parce que parfois, y a beaucoup plus de monde. Mais de ressentir la passion, la communauté, c'est quelque chose qui est justement l'origine de pourquoi ce podcast. Donc, merci en tout cas d'avoir présenté ton joli parcours. Et on n'est qu'au début. Je tiens à signaler. Alors, une autre question. Maintenant, on va rentrer dans le sujet principal du podcast. C'est à quelle période les Seahurst sont-ils apparus dans le paysage français ? Dans quel contexte ?
Alors, avant de parler de Seahurst, je pense qu'il faut, pour l'auditoire, expliquer la différence entre un Seahurst et un CERT. Et donc, de façon générale, j'ai une formulation qui est très simple. C'est qu'un Seahurst, c'est comme un réfrigérateur, et un CERT, c'est comme un frigo. C'est-à-dire qu'un CERT, en fait, est une marque déposée. Donc c'est pour ça que c'est la marque la plus connue. Tout le monde parle de frigo aujourd'hui, mais on devrait tous parler de réfrigérateur. Voilà. On pourrait parler de glacière, etc. On pourrait parler de soc, de VOC, etc. Mais globalement, bien poser les choses. Maintenant, il faut aussi voir ce qu'on fait de ce vocabulaire-là au sein de son entreprise ou de son organisation. Par exemple, chez Arium, on a un CERT. Et en fait, pour nous, le CERT, c'est le mot générique. Et en dessous de ça, il y a un CERT pour traiter les incidents classiques, et on a un PCERT, qui est l'équivalent d'un CERT, mais pour les produits, puisqu'on fait aussi des produits de sécurité. Donc voilà, nous, notre définition, c'est ça. Il suffit d'être clair dans le vocabulaire qu'on utilise.
C'est important.
Voilà. Comme on dit « what's in a name » en anglais, appelons les choses par leur nom, c'est, je pense, important. Voilà. Pour revenir à ce point-là, avant de parler des Césirtes en France, je pense qu'il faut parler des Césirtes déjà en Europe. Bon, déjà, même aux États-Unis. Le tout premier, donc, c'est à peu près en 88, après le ver de l'Internet, aussi appelé le ver de Maurice. Le premier qui a été monté en Europe, c'est au Danemark. Ça, on ne le sait pas forcément, mais les premiers en 91, c'était le Danemark. Après, il y en a eu aux Pays-Bas, avec Surfnet. Et puis le dernier, c'est avec des Fencert en 93. Pardon. Voilà. Ça, c'est les trois premiers. En France, je pense que, si je ne me dis pas de bêtises, ça va être en 96 ou en 97 que le premier a été créé. Ça devait être le CERT Rénater. Avec notamment David Crochemore, qui a été un des fondateurs, dont on reparlera sans doute après, parce qu'il a été aussi un des premiers à rentrer au conseil d'administration du First. Et puis après, bah, il y a eu le CERT A, devenu le CERT FR, le CERT IST, Apogee Communication, on en avait un, Lexi en avait un, et puis après, il y a eu XMCO, etc., etc. Ça a pas mal évolué. Mais en gros, on peut considérer que ça a commencé à la toute fin des années 90 en France. Ça a commencé à se regrouper de façon totalement informelle dans une petite association. Enfin, c'était même pas une association, c'était vraiment un groupe informel hein, qui était plus ou moins hébergé par la DCSSI devenue Annecy. Et on était 4 ou 5 à se voir une fois de temps en temps. Mais une des motivations de ça, c'était aussi parce qu'avant, on se voyait à l'Eurosec. Et Eurosec n'existant plus, voilà, il fallait qu'on se voit quand même parce qu'on avait des choses à échanger. Voilà comment est-ce que ça a commencé. Et puis, bah, donc, l'Intercert est devenu l'Intercert FR, puis l'Intercert France, association est maintenant bien, bien connue. On est 127 membres ou 128 membres aujourd'hui.
Voilà, c'est ce que j'ai demandé.
Avec, je dirais, pas mal d'activités. Voilà. Donc, voilà comment ça a commencé en France, sur des problématiques, je dirais, de traitement d'incidents purs. Et puis, après, avec toute la partie dont on parle beaucoup maintenant, tout ce qui est la threat intel, le threat hunting, tout ce qui est playbook, procédure, etc., etc.
Voilà, ça s'est industrialisé.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est devenu les certes qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre la genèse, hein, ça c'est clair. Hein.
Et ce que je rajouterais aussi, c'est que moi, en fait, je suis tombé dedans un peu par hasard.
Oui.
Parce que le premier firewall pare-feu que j'ai eu l'occasion d'installer, c'était en 94. À l'époque, c'était un Dexil. Je dirais, il faut quand même parler de ce qu'on avait en France à l'époque. Il y avait guère que Hervé Schauer, qui faisait figure de pionnier et de précurseur avec son Internet Gateway, son Gatekeeper. C'était la seule solution qu'on avait. Et puis, moi, j'ai commencé à travailler à peu près dans les mêmes années avec la solution de Trusted Information System, qui était soit le Firewall Toolkit, qui était une solution totalement gratuite, soit avec le Gauntlet, qui était l'équivalent au niveau commercial. Et puis après est arrivé le Firewall 1.1 de Checkpoint, et puis après toute la vague de Firewall qu'on a vu arriver.
Ouais.
Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce genre de choses, avec Bertrand, que j'évoquais tout à l'heure, on avait fait un des premiers interop en France, justement sur la partie interconnexion, et on avait monté une architecture avec des firewalls, des solutions de sécurité, et donc les partenaires à l'époque venaient sur ce réseau-là et on faisait des démos. Voilà, et c'est, les débuts vraiment des firewalls, et surtout de la notoriété de ces firewalls-là. Parce que je me souviens avoir vu les gens de Checkpoint qui étaient venus nous voir sur un des premiers interop en disant l'année prochaine, on aimerait bien participer. Et voilà, un peu l'histoire. Donc ça nous ramène au milieu des années 90.
Oui, c'est ça, au milieu des années 90.
Tout à fait. Wow.
Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est tellement quelque chose de commun qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'à l'époque, ça partait
de pas grand-chose.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est comme à l'époque avec les virus ou les antivirus qui réglaient tous les problèmes de la Terre.
Ouais.
Bon, maintenant, les anti-malware, les EDR, les XDR, les machins DR. Mais oui, à la base, on a des technologies qui sont finalement relativement simples. Et on a aussi des technologies qui ont été créées au début, dans les années 90, voire même avant, et puis qui ont évolué. Même chose quand on parle aujourd'hui de machines virtuelles. On dit tous les VM, les Docker, les machins, mais il faut savoir que c'est une technologie qui date des années 70-80. Quand je travaillais chez Dassault Electronique, donc j'étais aussi sur environnement mainframe, et sur les mainframes, tout le monde connaît MVS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie technique, sur les mainframes, on avait un autre système d'exploitation qui s'appelait VM. VM, je vous laisse deviner ce que ça veut dire, mais c'était ça à la base, la virtualisation.
Wow.
Et donc, on avait des hyperviseurs en VM et dessus, on mettait des MVS, d'autres VM, et c'est comme ça que ça fonctionnait.
D'accord, ok.
Donc la technologie, les bases, hein, je ne dis pas qu'aujourd'hui tout ce qu'on fait, ça inspire directement d'IBM, mais à la base, la technologie, il y a quand même des racines qui sont un petit peu anciennes. Oui. Voilà, tout n'a pas été inventé avec Twitter.
Oui, pas mal. On a parlé de David Crochemore, hein, j'imagine que tu salues. Hein,
tout à fait.
Avec une jolie moustache, hein, très souvent.
Tout à fait.
Hervé Schauer. Et c'est marrant parce que dans l'autre sens, on parle souvent de toi. Et ce qui commence à prendre dans le podcast, c'est qu'on retrouve vraiment les noms de l'histoire de la cyber à chaque fois qui ont contribué à monter tout ça. Donc, je suis très content.
Il y en a d'autres qu'on peut citer. Hein.
Oui, allons-y, parce que l'histoire se sait déjà.
Il y a Philippe Bourgeois, par exemple, qui travaille au CERT IST depuis quasiment ses débuts, et qui notamment fait un bilan, un panorama de la cyber ou de la sécurité tous les ans lors du forum du CERT IST, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui gérera une culture aussi en matière de sécurité et de cybersécurité qui est immense. Et c'est important de pouvoir justement s'appuyer sur ce genre de personnes quand on se pose des questions. C'est notamment une chose que moi j'ai bien appréciée à l'ANSSI, les années que j'ai passées, parce que au niveau de la direction SDO, donc la partie opération, ou de SDE, de la partie expertise, qui à l'époque était notamment pilotée par Vincent Strubel, quand on se posait une question, et généralement quand on se pose des questions au niveau cyber et qu'on est à l'ANSSI, ce n'est pas des questions simples, on trouvait toujours quelqu'un dans la tour qui permettait d'avoir des pistes ou même d'avoir des réponses. Ouais. Et c'est un écosystème et c'est, je dirais, une culture qui est très, très, très enrichissante. Et là, effectivement, c'est le partage entre des personnes, des sachants. Et ça, c'est...
C'est une force incroyable.
C'est une force, ouais, exactement.
Incroyable. Ouais. Ça, c'est clair. C'est pas l'IA. Enfin, on met tout dans l'IA aujourd'hui, on en parlera après. Mais c'est vrai que d'avoir cette richesse humaine et à la fois cet intellect qu'on peut trouver ailleurs, et française aussi, parce qu'il faut le signaler, européenne. Hein. Justement, on parlait de l'ANSSI. Pour toi, quel est le rôle qu'ont joué les institutions françaises dans la structuration des CISERT, hein, donc tu as parlé de l'Intercert, du développement. Est-ce qu'ils ont vraiment eu un fort impact sur le développement, sur les échanges et l'associatif? Est-ce que tu peux nous parler peut-être plus de l'association aujourd'hui qui regroupe tous les CISERT?
Alors, en fait, c'est un sujet qui n'est pas forcément très facile. Je vais peut-être me faire quelques inimitiés. Globalement, il faut bien se dire que le partage, c'est quelque chose qui n'est pas toujours naturel pour tout le monde. Parce qu'on ne veut pas partager des informations suite à des attaques ou parce qu'on a eu des problèmes ou parce qu'on a eu des informations via des sources et qu'on n'a pas le droit de rediffuser ces informations-là. Et il faut aussi bien comprendre que des CSSI, donc CERTA et puis ANSSI, CERTFR, c'était avant tout un CSIRT national et surtout gouvernemental. Et donc, qui notamment s'occupe des OIV. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas partager tout et n'importe quoi. Donc ça, il faut quand même bien avoir ça à l'esprit. À l'inverse, il y a quand même une volonté de diffuser des informations lorsque c'est utile et même faire des annonces en avance de phase. Donc ça, il y a quand même une petite ambivalence qui fait qu'on veut partager, mais on ne peut pas toujours. Et ça, que ce soit au sein d'un CSIRT ou au sein d'une administration comme l'ANSSI. Donc ça, c'est quand même un point qui fait que... Enfin, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Parce qu'on se dit tous, pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas? Mais en réalité, ce n'est pas toujours facile de partager. On n'a pas forcément l'autorisation d'eux. Donc ce qui s'est passé, c'est que le CERT-A puis le CERT-FR a été une espèce de catalyseur pour l'Intercert, version non officielle. Et encore une fois, au début, l'Intercert, on n'en parlait pas. Et on ne voulait surtout pas que ça se sache. On ne voulait surtout pas communiquer sur le fait qu'on échangeait. Donc on a vécu comme ça un peu en sous-marin pendant pas mal d'années, hein, parce que ça doit être de 2003-2004 jusque quasiment en 2012 ou à peu près. Ah oui, tout à fait. Et donc là, au bout de quelques années, il y avait de plus en plus de CSIRT qui rentraient. On s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus loin? Et là, il y a eu une action décisive au niveau de l'ANSSI qui a été de dire, il faudrait quand même structurer les choses. Moi, j'étais dans ce monde-là, je trouvais que ça faisait partie de mes missions, donc j'ai aidé à structurer ça, et puis à créer ce qu'on appelait les collèges. Donc avoir un collège au niveau des CSIRT externes, donc CSIRT commerciaux, et un autre collège qui a été les CSIRT internes, aussi bien les entreprises que les administrations. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis bien entendu, après, ça a été repris, et donc c'est devenu une association. Là, il vient d'avoir un changement au niveau du bureau, mais vous avez des gens comme, bien entendu, Frédéric Lebestard, tout un tas de personnes qui avaient pour vocation d'aider à structurer cette association. Martine Giralt du CERTIST aussi a été une des pionnières, et puis d'autres qui sont passés, mais je dirais tout le monde a contribué. Et puis aujourd'hui, je dirais, on a une association qui est extrêmement mature. Donc ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une première impulsion qui a été donnée au niveau de l'ANSSI CERTFR pour vraiment aider cette structuration là et puis un deuxième cadre qu'il faut mentionner, c'est tout ce qui est ces certes régionaux. Parce que là aussi, je dirais, il y a eu une création de valeur, une aide qui a été donnée. Alors une aide pas seulement en termes de subvention, mais aussi une aide ne serait-ce que dans la capacité qu'on voulait donner à ces CIRT de gagner en maturité le plus vite possible. Mmh. Et donc il y a eu ce que l'ANSSI a appelé l'incubateur. Et donc, on a été quelques-uns à intervenir, dont Martine, Vincent et autres. Et cet incubateur, lorsque l'ANSSI a décidé d'arrêter de le faire, eh bien, c'est l'Intercert qui l'a repris. Donc, d'accord. Au début, pour les CIRT régionaux, donc à part une région aujourd'hui, toutes les régions sont couvertes aussi bien en métropole que dans les territoires. Et donc ça marche. Je dirais, il y a encore des besoins de gagner en maturité, mais pour certains, c'est quelque chose qui tourne et qui sont connus. Et ça, c'est important qu'ils soient connus. Voilà, ça, faut quand même le mentionner. Et puis, derrière, c'est un incubateur. Il a servi à accueillir. Maintenant, on est à une quarantaine de ces CIRT qui étaient en phase de création ou qui étaient déjà créés, mais qui avaient besoin de gagner en maturité. Et donc, ce programme, il a été monté notamment avec Aude Costa, qui est la directrice du Intercert France, et puis avec Vincent Nguyen, qui est un autre... pas tellement ancien, parce qu'il est encore jeune, mais qui est un de mes anciens élèves que j'ai eu lorsque j'enseignais à l'EPITA. Et donc, c'est aussi rigolo de travailler avec des gens comme ça, qu'on a vus tout jeunes. Et ça fait plaisir de voir que finalement, les personnes aussi, elles grandissent, elles deviennent plus matures, et puis elles réussissent. Et donc, ça fait partie des réussites, comme on peut être fier de ses enfants lorsque ils réussissent. Quoi.
Le transfert.
Exactement. Et le transfert, c'est très important pour moi. Oui, ça, c'est clair. J'ai commencé à enseigner quand j'étais au service militaire. J'ai enseigné en école d'ingénieur. J'enseigne toujours aujourd'hui, maintenant plutôt dans des masters spécialisés, que ce soit à l'EGE, dans le cadre de MACIB, ou que ce soit dans le cadre de l'ISEP, pour différents masters spécialisés. Et aussi au niveau formation professionnelle et continue, que ce soit en France ou à l'étranger, sur des aspects de maturité de ces CIRT, par exemple.
Oui, ça c'est aussi important pour aider. Tu me l'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que on peut même peut-être commencer à en parler. Hein. Alors là, j'ai une question justement qui vient un peu là-dessus. Qu'est-ce qui distingue d'un CIRST qui est mature d'un CIRST, de façade un petit peu? Qu'est-ce que ton avis dessus?
Disons, il faut déjà définir ce que c'est que la maturité.
Voilà.
Alors, la maturité d'une personne, c'est quand on a un certain âge, on a des cheveux gris. Wow. Voilà. Merci. Bon, plus sérieusement, c'est la maturité, il y a une autre façon de la définir. Et ça, c'est le premier qui a fait la remarque qui m'a beaucoup frappé, c'est Didier Gras, qui est aujourd'hui à la BNP et notamment au board du CESIN, qui, dans une présentation il y a quelques années, a dit c'est un petit peu comme un artisan d'un côté et un processus industriel de l'autre. L'artisan, il est très bon. Par contre, il est tout seul. Ou très souvent, il est tout seul. Le processus industriel, il est plus lourd, mais on est sûr qu'il y aura une continuité dans le service qui sera délivré. Et avoir, par exemple, dans ces CIRT des gourous, c'est très bien, mais le gourou, si on le fait travailler pendant 48 heures d'affilée, le gourou, il va être un petit peu fatigué à la fin. Donc, il ne va pas tenir la distance. Il est plus important, en fait, de construire une équipe. Donc, non seulement une équipe d'êtres humains, mais aussi une équipe qui a des procédures communes. Et je dirais, la vraie maturité, il y a un modèle de maturité qui sert à ça, hein, qui a été défini en 2008, qui s'appelle le CIM3. Et l'objectif de ce CIM3, c'est justement de définir avec quatre domaines différents, 45 paramètres, quels sont les critères de maturité. Et on note cette maturité en fonction de plusieurs niveaux, depuis cet aspect-là de maturité ou de cet aspect-là de, dans la structuration d'un CSIRT, on ne le traite pas du tout. On fait des choses, c'est du bouche à oreille entre les différents membres de l'équipe, ou alors on a écrit un petit quelque chose, mais ça n'a pas été formalisé. Le troisième niveau, c'est ça a été écrit, ça a été validé par la hiérarchie, par le responsable du CSIRT ou éventuellement par le RSSI. Et le quatrième niveau, c'est non seulement ça a été validé, mais en plus, c'est revu régulièrement. Donc, il y a une notion de qualité.
CMMI, un peu dans le même principe.
C'est quasiment les mêmes principes que CMMI, tout à fait. Et là, c'est sur des domaines qui sont les aspects d'organisation et notamment le mandat d'un CSIRT, parce que ça paraît évident, mais quel est le vrai mandat d'un CSIRT? Parfois, les frontières sont très floues entre un CSIRT, un SOC, un VOC, un NOC, le reste de l'équipe de sécurité, les équipes de cyberdéfense. Là, on peut aussi parler de la norme X1060 sur la partie cyberdéfense, la norme de l'ITU. Il y a plein... les frontières ne sont pas toujours très claires. Donc voilà, ça, c'est pour la partie organisationnelle. Je cite que quelques exemples. Il y a une partie sur la partie humaine. Et donc, la partie humaine, c'est aussi bien sur, je dirais, les aspects de code de responsabilité, code of conduct, des aspects de résilience de l'équipe. Combien de personnes est-ce qu'on a pour assurer le service qu'on a défini dans la partie organisationnelle, d'autres paramètres dans la partie organisationnelle, c'est par exemple, quels sont les services qui sont délivrés par le CSIRT. Parce que le CSIRT, ce n'est pas simplement traiter un incident. Il y a plein d'autres choses. Est-ce que, par exemple, la threat intel, on le met dans le CSIRT ou pas? Pour ça, je ne peux que recommander le document qu'on a rédigé dans le cadre du FIRST, le groupe de travail du CSIRT Framework. Donc, c'est un quadriciel qui permet de définir, avec 5 domaines, quels sont les services qu'on est en droit d'entendre d'un CSIRT. Donc, organisation, humain, la partie outillage. Attention, la partie outillage, ce n'est pas quel est le produit que tu utilises. La partie outillage, c'est beaucoup plus quelles sont les règles qui régissent le fonctionnement des différents outils. Est-ce que tu as des outils qui couvrent tous les services que tu dois offrir? C'est ça, en fait, ces aspects de maturité. Et puis, le dernier point, qui est là où il y a le plus de paramètres, il y en a 17 sur les 45, c'est la partie procédure. Et là, c'est depuis des aspects d'escalade, des aspects de fonctionnement, de traitement d'incidents particuliers, par exemple les playbooks, les SOPs, les fiches réflexes, etc. La gestion, les échanges ou les escalades avec ce qu'on appelle les constituants, c'est-à-dire les clients, même les clients internes. Et notamment sur cet aspect-là, ce n'est pas simplement quand il y a des incidents, c'est aussi en temps normal. Quel est finalement le reporting que l'on établit entre le CSIRT et ses clients? Par exemple, tous les ans, il y a l'ANSI, il y a l'ENISA et d'autres entreprises qui publient des rapports sur l'état de la menace. Je dirais, lorsqu'on est dans un CSIRT, faire ça une fois par an, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut soit tous les mois, soit tous les trimestres, faut fournir de l'information. Voilà, ça fait partie aussi des choses où on va mesurer la maturité. Et puis, une dernière chose, c'est par exemple la gestion des réunions. Alors, tout le monde va dire, oui, la réunion, tout le monde sait gérer.
C'est étonnant, oui.
Ah oui, mais il y a par exemple des choses qui sont toutes bêtes. Mais lorsqu'on est dans une réunion en train de traiter un incident ou qu'on pose des questions, il faut savoir bien gérer cette réunion. Il faut, par exemple, et c'est une petite astuce, mais il n'est pas recommandé de laisser parler le responsable de l'équipe ou le responsable du CSIRT ou le RSSI en premier. Pourquoi? Parce que dans certains pays, une fois que le chef a parlé, eh bien, tout le monde est d'accord. Donc, typiquement, quand on est en train de traiter un incident dans une entreprise internationale, eh bien, il faut penser à ce genre de choses. Et encore une fois, l'humain revient. On ne peut pas dire n'importe quoi dans n'importe quel ordre et n'importe comment. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc ça fait partie des petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et puis la dernière astuce que j'aurais mentionnée, parce que quand on fait du traitement d'incident, la partie communication est extrêmement importante, notamment à la fin de la réunion, il faut dire quand est-ce qu'on fait le prochain point. Donc il faut donner un rendez-vous. Et c'est vrai aussi dans une gestion de crise. Il ne faut pas qu'on se fasse déborder par tout ce qui sera les gens qui veulent avoir des informations, les réseaux sociaux, les journalistes, les journaleux, en gros, tous les gens qui veulent savoir. Non, on doit, nous, rester maîtres de notre communication et donc du timing.
Donc là, ma question sort un peu de ce qu'on s'était dit, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et le first dans tout ça, c'est, est-ce que c'est un comité, entre guillemets, de gourous sachants qui ont créé pas l'association, mais ce framework dont tu as parlé. Comment ça a arrivé le côté, je dirais, système de management pour les CISURST
Alors, ça a commencé dans les années 90 aussi.
Aussi, déjà.
Aux États-Unis, simplement parce que différentes équipes de traitement d'incidents se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de partager. Donc, je dirais une trentaine d'années après, on se retrouve avec une association où on est quasiment 900 équipes dans 110 pays de par le monde. Et on est à peu près 200 liaisons. Donc, ce sont des individus qui soit travaillent dans un CIRT, soit ne travaillent plus dans un CIRT, mais qui, à titre individuel, souhaitent coopérer et collaborer. Bon, je fais partie de ces membres liaisons. Donc, cette association, elle s'est créée, elle a grandi avec les différents services qu'elle voulait offrir. D'abord, des services de partage. Donc, on a des bases de partage, on a des réseaux de partage. Après, des groupes de travail. Et ça, les groupes de travail, pour moi, c'est vraiment le cœur de l'association. Pourquoi ? Pour un nom très simple, c'est qu'on rencontre les mêmes problématiques, quel que soit le pays, par contre, avec une vision qui est parfois un petit peu différente. Et le fait qu'on soit présent dans autant de pays et qu'on ait des membres qui travaillent dans les groupes de travail justement avec ces visions différentes, ça nous permet de structurer et d'avoir un vocabulaire commun. Et parmi les missions du FIRST, c'est justement de favoriser ces traitements communs, ce vocabulaire commun et ces procédures communes. Et donc, des réussites comme, par exemple, le TLP, le Traffic Light Protocol, donc quelles sont les façons et les règles pour diffuser de l'information. Attention, je ne parle pas de classification, je parle bien de diffusion. Le CCIRT Framework, le PCIRT Framework, et puis plein d'autres choses qui existent. Il y a des groupes de travail sur la threat intel, il y a des groupes de travail sur la gestion des risques, sur les aspects réglementaires, sur les aspects juridiques, sur les aspects humains. Aussi important. Et je dirais, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui existe ? On est à peu près 35 groupes de travail différents, donc ça montre un petit peu la panoplie. Et ce principe-là, il a été aussi repris au niveau de l'Intercert France, parce qu'on a les mêmes problématiques. Donc les groupes de travail, notamment une des choses qui est les plus connues, ce sont les fiches réflexes et les playbooks, qui ont été des groupes de travail qui ont donné lieu à des publications juste avant les Jeux Olympiques, et il y a des nouvelles versions qui sont sorties, et puis ça va être bientôt traduit en anglais. Mais ce partage et ces diffusions auprès de la communauté, on considère tous que c'est fondamental. Le partage... Oui. C'est le mot important. Et puis, le deuxième mot que je peux mentionner, c'est le mot de confiance. Sans confiance, on ne peut pas avoir de partage. Alors après, la question qui se pose, c'est oui, mais à Intercert France, si vous êtes 120, au FIRST, si vous êtes 900, et puis il y a plein de pays différents, est-ce que la confiance, ça tient l'échelle ? Clairement, non. Par contre, c'est un excellent catalyseur. Je peux donner des chiffres qui sont très intéressants et qui ont été publiés par l'Intercert France. Donc, on a un réseau de communication qui est basé sur une messagerie instantanée. Et en fait, on se rend compte que sur les milliers de messages qui sont échangés, il y a à peu près, je crois que les chiffres, c'est 73 ou 75% des messages qui sont des messages en one-to-one. Entre différentes personnes.
D'accord.
Il doit y avoir, je crois, une quinzaine de pourcents qui sont des messages dans des groupes fermés. Et le reste, c'est le public.
Ah oui.
Donc on voit que la partie qui est vue de tout le monde, elle est marginale. Ce genre d'instance, ça sert vraiment à établir des relations. Et après, on va travailler sur des problématiques spécifiques ou sur des incidents spécifiques. Donc la confiance, oui, mais la confiance à plusieurs niveaux.
Contrôler.
Exactement.
Ouais.
Et puis, un point d'entrée. Si on est rentré dans l'Intercert France, c'est qu'on a été coopté. Il y a tout un processus.
Oh,
le FIRST, c'est pareil. Il y a une visite sur site qui est faite pour voir quel niveau de maturité, etc. L'Intercert France, c'est exactement pareil. Mais c'est vrai aussi, par exemple, au niveau de la NCA, qui est l'association japonaise des CCIRT. Et puis, c'est vrai pour d'autres associations, au niveau de la TFCCIRT en Europe et autres. Bon, on a ce premier niveau. Et une fois qu'on est rentré, on est, rentré dans la communauté et on peut commencer à partager ou aller un petit peu plus loin.
Voilà. C'est un super retour parce que je pense que ça va donner aussi peut-être l'envie à plein de nouveaux arrivants dans le marché de la cybersécurité, de comprendre un peu le monde du CISR et de peut-être avoir envie justement de se dire, bah, ce n'est pas que des indicateurs, hein, on
C'est
va
clair.
parler d'humain, on va parler peut-être de transfert, on va parler peut-être d'international, peut-être d'IA, automatisation plutôt, je dirais, pression réglementaire. Comment tu vois l'avenir des CISR dans 10 ans, par exemple? On sait que le contexte géopolitique, par exemple, il est compliqué. On en a discuté juste avant. Tu me disais enfin, on a entendu Winter is coming il n'y a pas longtemps parce que c'est assez compliqué. Mais au final, tu me disais que bah, il est là, l'hiver, hein, depuis bien
Winter is
longtemps.
already there.
Already there. Quel accent.
Et il est là depuis quand même pas mal d'années. Ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est que
Oui.
tout le monde considère que les problèmes actuellement en Ukraine, ça a commencé en février 2022. Non, dans la réalité, ça a commencé en Ukraine spécifiquement dans les années 2010. En gros, on peut considérer 2012. Et puis, bah, je dirais, la problématique en question, elle a commencé au milieu des années 2000. Il suffit de regarder les grandes attaques qu'il y avait eu en déni de service en Géorgie, en Estonie, etc. Voilà, ça, c'est des faits. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a plus de boulot qu'avant dans un CSIRT. On en a toujours eu. On n'a jamais été au chômage. Hein. On s'est jamais tourné les pouces. Il n'y a pas de problème. La seule chose, et ça, c'est un point qui est important, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Et ça crée effectivement un sentiment peut-être anxiogène, mais néanmoins, il ne faut pas se leurrer. Que ça soit aujourd'hui Vincent Strubel, que ça soit avant les précédents directeurs de l'ANSSI, je dirais, ils disaient tous la même chose. Bon, on ne le disait pas
Bien sûr.
forcément suffisamment fort, ou on ne voulait pas non plus faire peur, mais ça a toujours existé.
Ouais, c'est important que nos auditeurs comprennent aussi qu'un expert cyber est capable d'affirmer ce qui est parfois peut-être sous-estimé, qui est cette fameuse guerre hybride. C'est qu'on en parle aujourd'hui, mais en réalité, comme tu disais, c'est depuis longtemps. Donc ce n'est pas une chimère. Hein.
Pas du tout, et très souvent, des guerres réelles, physiques, ont été précédées par des guerres cyber. Et puis on voit aussi, on a pu l'observer, hein, le fait qu'il y ait un déplacement de l'intérêt de certaines grandes puissances en Ukraine, ça fait que bah, ils se sont moins intéressés à leurs cibles habituelles. Et puis on a vu d'autres États s'intéresser parce qu'il y avait une place qui était libre et autant en profiter, quoi. Donc c'est quand même très mouvant.
Et donc la suite, hein, pour répondre à ma question, niveau réglementaire,
Alors,
l'outillage
il y
peut-être, est-ce
a
qu'il y a des choses qui vont
ouais,
changer, tu
deux
vois?
choses. La première, c'est que on est touché au niveau des CSIRT un petit peu, mais je pense qu'on est plus touché au niveau RSSI. Donc, je fais partie aussi du CISA, du CESA, pardon, en France et de l'EXO au niveau européen, donc en tant que RSSI. Et là, on en parle énormément, mais vraiment énormément, sur tout un tas de problématiques différentes et qui sont importantes pour nous. Ça, c'est le premier point. Après, en termes de conformité, je pense qu'il faut aussi faire attention à une chose. Il ne faut pas qu'on arrive à faire de la sécurité pour être conforme et finalement oublier les fondamentaux. Et ça, je pense que c'est un risque.
Très intéressant, ça.
On a des exigences qui sont importantes, c'est un fait, mais ces exigences, on doit y répondre, évidemment. Mais dans certains cas, on est malheureusement obligé de faire des choix pour la conformité, alors qu'en fait, le niveau de sécurité n'est pas forcément satisfaisant. On a aussi des limitations en termes de ressources humaines, on a des limitations en termes de personnes, on ne peut pas tout faire. Donc il y a des choix qui doivent être faits. Et ça, pour moi, c'est un premier risque. On verra ce que l'avenir nous dira. Après, on parlait rapidement là de l'IA. Personnellement, je suis un peu en retrait de ça. Contrairement à tout un tas de gens sur LinkedIn, ça fait pas 40 ans que je fais de l'IA. Hein. Désolé.
Je
Franchement,
vois.
désolé. Moi, je préfère déjà qu'on parle d'automatisation et d'enrichissement des informations ou des incidents. Parce que là, en termes d'automatisation, il y a des vrais gains. Il peut y avoir un petit peu d'IA, mais j'y reste avant tout le terme d'automatisation, moi, qui m'intéresse. Et je suis plutôt quelqu'un de concret, de pragmatique, et aujourd'hui, j'ai des vrais besoins. Donc ça m'intéresse. Oui, tout à fait. Donc je préfère parler d'automatisation, d'enrichissement, et aussi du fait que bah, cet enrichissement, il est important parce que les choses bougent vite. Tout le monde se concentre sur les IOC, les indicateurs de compromission. OK, mais les IOC, ça bouge, ça vit. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont les TTP. Donc finalement, les techniques, les outils et les principes qui sont utilisés par le groupe d'attaquants. Parce que là, il y a des fondamentaux. Mais encore une fois, il faut connaître ces fondamentaux avant de parler des aspects techniques. Les IOC, c'est important, il y a aucun problème.
Oui, non, mais...
Ça sert à détecter, ça sert à plein de choses. Mais connaissons d'abord nos fondamentaux. Même chose, quelqu'un qui travaille dans un CSIRT, il doit connaître les bases des réseaux, il doit connaître les bases des systèmes. Il ne faut pas simplement se dire, bon, j'ai fait mon e-learning, j'ai eu plus que la moyenne dans mon QCM, donc tout va bien, je suis expert. Non, il faut vraiment connaître les bases. Ouais. C'est vraiment important.
L'aspect formation, je pense que... D'ailleurs, pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite, par exemple, travailler dans un CSIRT aujourd'hui
Connaître ses bases et connaître les fondamentaux. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire qu'il faut avoir des certifications partout. Les certifications, ça aide, c'est vrai. Mais il faut bien voir de quelle certification est-ce qu'on parle. Il y a malheureusement un certain nombre de certifications pour lesquelles il faut avant tout faire du bachotage. Et en fait, on n'a pas acquis les fondamentaux.
C'est pas métier, quoi.
C'est pas métier. Donc c'est très bien. Et effectivement, quand je fais des formations, notamment à l'étranger, il y en a qui ont besoin d'avoir ces certifications, avoir telle ou telle certification de tel ou tel organisme. Il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont vraiment experts. Il y a toujours besoin de compléter. Et puis, la dernière chose que je veux mentionner sur l'aspect de formation, et là, ce n'est pas forcément que pour ceux qui débutent, il faut se dire aussi, une fois qu'on aura, on pensera avoir atteint un niveau satisfaisant, il faut passer de l'autre côté de la barrière. Il faut devenir soi-même formateur. Parce que là, on va partager. Et on va se rendre compte qu'en devant partager, on va apprendre.
On apprend soi-même.
Je vais être très honnête, le TCP/IP, je l'ai appris sur le terrain. Quand il a fallu que je donne des cours de TCP/IP, il a bien fallu que j'apprenne vraiment et que je connaisse, non pas tout, mais que je connaisse un maximum de choses. Donc ça, c'est un vrai challenge, mais c'est aussi comme ça qu'on s'améliore. Et moi, je continue à apprendre et je continuerai à apprendre parce que je pense que c'est important. Et c'est comme ça aussi avec des retours d'expérience, parce que ce n'est pas que de la technique. C'est aussi expliquer ce qui se passe, surtout quand il s'agit de traiter des incidents. Aujourd'hui, j'ai tendance à bien insister sur l'aspect communication, par exemple, lors de traitement d'incidents, sur l'aspect humain. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on ne peut pas travailler pendant 48 heures d'affilée. Il faut avoir des équipes. Il faut penser en avance de phase. Donc, le mot d'anticipation, il intervient de plus en plus souvent quand on parle de CSIRT ou quand on parle de gestion d'incidents. Et puis, le dernier point pour la partie... quelqu'un qui veut se lancer dans un CSIRT, je pense qu'il faut avoir une tête bien faite. Et avoir, ce côté humain. Parce que quand on traite un incident et qu'on a au téléphone ou en face de soi quelqu'un qui est responsable d'une entreprise ou qui est administrateur et qui a tout perdu, le côté humain, si on ne fait pas preuve d'empathie, si on n'a pas compris ce que c'est que la courbe du deuil, on va aller complètement à côté. Et le traitement d'incident, peut-être que techniquement, ça sera une réussite et on sera content, mais humainement et pour la perception de la victime, ça sera un échec complet. Donc, ce côté humain, finalement, la boucle est un peu bouclée parce que j'ai commencé en parlant d'humain et je termine par ça, mais je pense que c'est vraiment un des éléments les plus importants dans une carrière et surtout l'interaction avec les autres.
Ça se sent. Eh bien, Olivier, merci beaucoup pour cette super interview. Je pense que le podcast, il va cartonner. Bravo pour tout ça, pour ton parcours et surtout bravo pour enrichir la communauté parce que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Je le vois bien.
Tout à fait.
Merci, Olivier.
Merci, Jérôme.